Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est le deuxième moment d'une semaine thématique que nous avons appelée Faire bref. Quatre réflexions autour de la brièveté. Hier, les formes courtes en littérature. Demain, 140 caractères pour une communication politique sur le net. Jeudi, des courts-métrages. Et aujourd'hui, un concours qui demande à des doctorants de résumer leur sujet de thèse en 180 secondes, pas une de plus. C'est parti. À l'occasion des Journées du patrimoine, vous êtes plusieurs milliers à avoir passé les portes de la Maison de la Radio ce week-end, plusieurs milliers à être venus nous écouter en direct, visiter le bâtiment et questionner certains d'entre nous. Parmi vos témoignages d'écoute, une remarque est revenue plusieurs fois. Pourquoi avez-vous l'air si pressé, messieurs, dames, les journalistes? Pourquoi a-t-on souvent l'impression que vous souhaitez que votre interlocuteur finisse sa phrase rapidement? Pourquoi vos chroniqueurs parlent-ils si vite? En somme, qu'est-ce qui dicte votre rythme? Excellente question à laquelle il est souvent d'usage de répondre qu'il ne faut pas que l'auditeur s'ennuie. Eh bien, il était intéressant d'écouter samedi les auditeurs en question, car en clair, ils nous encourageaient plutôt à lever le pied de l'accélérateur. Bien sûr, il y a nuance entre rythme et rapidité. Bien sûr, il y a un large spectre entre vif et pressé. Mais nous tâcherons, sans penser à la place de vos oreilles, de trouver le bon équilibre. Bienvenue à vous, c'est l'heure des nouvelles vagues sur France Culture. En fin d'émission, vers 16h45, nos ondes enregistrent les révolutions intimes, gravent les points d'intensité qui deviennent parfois des points de départ pour les nouvelles vagues. Cette semaine, c'est une jeune chercheuse de l'École des hautes études en sciences sociales qui se prête à l'exercice au micro d'Inès Duperron. Aujourd'hui, elle nous parle de Blade Runner, film de Ridley Scott, qu'elle voit adolescente 20 ans après sa sortie en 2002. Natalia Kloss est scotchée dès la première scène par la bande-son musicale. Elle nous racontera. 13 chapitres qui portent 13 prénoms de personnages, tous deviennent des croix rouges et noires sur une carte où les destins se relient et font face à des figures du mal. Tueur en série, monstre cauchemardesque, maison en feu, dans son premier roman, Jérémy Fell bâtit sa narration sur la forme brève et accentue ainsi la fragilité des existences et le peu de choses à quoi tient parfois l'effondrement d'un monde. Son livre a paru aux éditions Rivage, Les loups à leur porte, il était notre invité hier, on le réécoute.
Chaque chapitre est un petit univers, en fait, en soi. Et la forme, de ce point de vue-là, était claire dès le début. Voilà. J'imagine que ce sont 13 débuts, et que, évidemment, il y a qui se terminent de façon claire dans ce texte, mais certains chapitres pourront aspirer autre chose après. Il y aura peut-être même... J'aimerais bien faire revenir des personnages, par exemple. C'est une idée que j'ai de plus en plus.
Thank you. of your man. Take him by the hand. Make him understand. The world on you depends. Our life will never end. You love your man.
Il y a quelques traces des romans noirs et de romans à suspense qu'on évoquait hier dans le choix musical fait par Miss Chanel pour ce premier disque. Il est signé Luca Aquino. Le projet s'appelle Over Doors. Et ici, c'était une reprise du morceau Riders on the Storm. Hier, toute votre radio célébrait le dessin à l'occasion de la journée Cartooning for Peace. Nous vous proposions un léger pas de côté en nous éloignant pour les nouvelles vagues légèrement du dessin de presse à proprement parler et en proposant à la graphiste illustratrice Clémence Passon de dessiner ce qu'elle entendait de l'émission. Cela donne un panorama d'encre noire sur fond rose où les croque-mitaines croisent les romanciers qui ne veulent pas faire mourir leurs personnages. C'est vraiment très beau. Allez donc visiter la page que franceculture.fr regroupe tous les dessins de la journée d'hier. C'est ravissant. Il est maintenant 16h08 sur France Culture. Vous écoutez les Nouvelles Vagues et c'est le deuxième moment d'une semaine que nous avons appelée faire. Bref, une semaine consacré à la brièveté. Hier, nous évoquions l'usage et les enjeux des formes brèves en littérature. Aujourd'hui, c'est un concours qui nous occupe, non pas celui du sketch des Monty Python qui demande à résumer Proust en 15 secondes, mais celui de la conférence des présidentes d'université et du CNRS qui demande à des doctorants de résumer le sujet de leur recherche en 180 secondes avec le seul appui d'une diapositive. Pour la deuxième année, et inspirée d'un concours australien 3 Minutes Thesis, des étudiants de France, mais aussi du Québec, du Cameroun et de 8 pays francophones se retrouvent sur scène et représentant leurs universités respectives s'affrontent donc en 3 minutes. Éloquence, bonne allure, simplicité, efficacité du propos, sens de l'humour, voici comment on les départage car il leur faut en ce temps et pas une seconde de plus, je cite, séduire le public et les membres du jury, les convaincre. La finale internationale du concours Ma thèse en 180 secondes se tiendra à Paris le 1er octobre prochain dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, dans un contexte de mise en concurrence des universités, dans un contexte de difficulté d'embauche aussi des enseignants-chercheurs. Qu'est-ce que ce concours nous dit en creux d'une politique universitaire française? Grégory Passini, vous avez 28 ans, vous êtes doctorant en biologie, je ne sais plus s'il est à ma droite ou à ma gauche. À ma gauche. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes doctorante donc en biologie, Université Paris-Descartes. Vous êtes candidat au concours 2015. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Benjamin Vest, vous avez 24 ans. Vous êtes doctorant en physique optique à Polytechnique et vous êtes aussi candidat 2015. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Marie.
Annick Cizor-Weiner, vous êtes membre du jury 2015. Voilà, là, incroyable, on a un membre du jury. Vous êtes professeur émérite à l'Université Paris-Sud. Bonjour à vous.
Merci.
Et puis au téléphone avec nous, Noémie Mermet, vous êtes doctorante en neurosciences et vous êtes lauréate du concours 2014, ainsi que Nicolas Duraca, vous êtes doctorant en sciences de l'information et communication et vous êtes tous les deux à Clermont-Ferrand. Bonjour à tous les deux, est-ce qu'on s'entend bien ?
Bonjour.
Oui, bonjour Noémie.
Bonjour.
Et on vous entend très bien Nicolas, super, vous nous ferez signe pour participer à la conversation. Alors peut-être pour commencer un petit tour d'horizon, une présentation de ce concours, Annick Suzer-Weiner.
Oui, d'accord. Alors, bonjour. Donc, effectivement, vous l'avez déjà dit. Donc, le concours a été initié en Australie, l'Université de Queensland, en 2008. Donc, il a été, bien sûr, en anglais. Il a été repris par nos amis québécois en 2012, en français. Voilà. Donc, ce sont eux, dans le domaine francophone, qui ont été pionniers. Et puis, ça a fait peu à peu tache d'huile. En 2013, la France et la Belgique, enfin, Université Belgique, Université Belge, Université Française, s'y sont mis. 2014, quatre pays, donc en dehors du Québec, de la Belgique, de la France, il y avait aussi le Maroc, qui était déjà présent en 2014. Et en 2015, alors c'est adjoint à la CPU et au CNRS, l'Agence universitaire de la francophonie que je représente en fait ici, hein, bien, tout en représentant mon université, donc ce qu'on dit l'AUF, hein, pour faire participer d'autres pays de la francophonie. En l'occurrence, ce sera pour cette édition la Tunisie, le Sénégal, le Cameroun et le Burkina Faso. Voilà.
Combien d'étudiants vous réunissez pour la finale qui a lieu le 1er octobre ?
16 étudiants.
Voilà. Alors, ce sont des étudiants qui ont été d'abord sélectionnés.
Voilà. Voilà. Et je peux juste dire qu'il y a d'autres pays candidats pour les éditions futures. Voilà.
Donc ça a un certain succès.
Ah, tout à fait. Alors, le jury est différent chaque année. Donc, moi, c'est la dernière fois que j'en fais partie. Il y a des jurys donc nationaux et puis le jury international, qui va se réunir, comme vous dites, à la Sorbonne, le premier, présidé par Cédric Villani.
Qu'est-ce qu'on gagne ?
Alors, il y a quatre prix. Un prix du public. Le public va voter indépendamment du jury. Par ailleurs, le jury va classer trois personnes alors les prix sont offerts et remis par nos partenaires qui sont la CASDEN, la MGEN, je ne veux pas dire de bêtises, je vais essayer de.
Il faut les chouchouter les partenaires.
Voilà, c'est ça exactement, c'est pas le moment
de. C'est pas le moment de les oublier là.
Ça va venir.
On les retrouvera disque, vous inquiétez pas, les retrouvera. En tout cas, il y a des lots.
Voilà, il y a des lots, donc il y a. Troisième prix 500 euros, 1000 euros deuxième prix, 1500 premier prix, plus bien sûr la notoriété. Voilà.
Les uns et les autres autour de la table, les raisons qui vous ont poussé à candidater pour ce concours ?
L'exercice d'écriture en lui-même a arrivé à un tel niveau de concision. On est habitué à être concis dans nos communications scientifiques. En général, dans un congrès, ça dure entre 10 et 15 minutes, suivi de 5 minutes de questions, donc c'est déjà très court et un petit peu difficile et frustrant de devoir résumer autant. Et là, c'était tellement poussé que ça en devenait intéressant, vraiment, et donc c'était pour ce challenge d'écriture, surtout.
Défi d'écriture, et pour vous ?
Il y avait une petite envie de trouver un moyen de sortir du labo, d'une manière ou d'une autre, on va dire, et faire de la médiation, aller voir un petit peu d'autres personnes, d'autres doctorants, mais d'autres gens, parler au grand public, ça m'a tout de suite plu. Mais je rejoins Grégory sur l'idée de se frotter à un exercice qui a l'air quand même un peu ridicule, tellement c'est extrême. Réduire un travail, un long travail de thèse en 3 minutes, donc forcément ça marque les esprits aussi.
Et finalement, vous, il y avait un moyen de sortir de ce qu'on appelle la solitude du chercheur, de cette longueur et peut-être de ce travail tout de même assez solitaire que constitue une thèse.
Ouais, c'est ça. Ce concours, il est arrivé à un moment de ma thèse, c'était vraiment pile au milieu, là j'arrive sur la fin, où je pataugeais un peu, j'arrivais pas trop à voir où est-ce que j'allais aller. Et je me suis un petit peu convaincu que la solution, elle était ailleurs. Il fallait que je reprenne les choses du début, il fallait peut-être que j'apprenne à voir mon sujet autrement et peut-être à le présenter un peu autrement. Et on va dire qu'il fallait trouver un moyen assez extrême, donc une forme complètement différente de celle avec laquelle j'ai l'habitude de travailler, donc une forme hyper concise, reprendre des mots différents, reprendre voilà, avoir un nouveau point de vue sur mon sujet. Et c'était voilà, ça rentrait parfaitement dans ce cadre-là. Avec la bénédiction de mon directeur de thèse, je me suis lancé tout de suite après.
Bonjour.
Bonjour. La surdouée de la famille.
Ah non, Odile, arrête.
Mais je plaisante. Et puis quoi, c'est un peu vrai, t'es la surdouée de la famille. Je suis très fière de ma petite sœur, moi j'ai le droit, non? Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28. Je te l'ai dit, non?
Ah bon? Mais une thèse sur quoi?
Sur rien.
Ah bah c'est bien, ça prend pas beaucoup de temps, ça.
Mais non, c'est les chevaliers de l'an 1000 du lac des paysans.
Ah non, Odile, c'est pas du tout ça.
C'est pas du tout ça? Bon, bah alors vas-y, c'est quoi?
Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru.
Bah, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pas dit ça?
Non.
Au lac de
Paladru!
Mais, excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse, ce...
Non, personne.
Mais pourquoi t'as choisi ce sujet, alors?
Pour faire parler les cons.
Pas comme lui.
Tu sais, moi, je te demandais ça, c'est plus une formalité qu'autre chose. Hein.
C'est bien ce que j'avais compris.
Et puis, à part ça, il faut être un peu indulgent avec les cons.
Je fais ce que je peux.
C'est assez difficile de s'en passer et de s'en priver. Cet extrait de On connaît la chanson, Alain Resnais, Sabine Azéma, Jean-Pierre Bacri, Agnès Jaoui, Je fais une thèse sur rien. Bah rien, comme ça c'est facile, ça va beaucoup plus vite. Ça nous permet d'évoquer la figure justement du chercheur qui est bousculé, qui est mis à mal par ce concours de ma thèse en 180 secondes. Vous dites, Benjamin, que c'est arrivé à un moment donné, ce concours de votre thèse où vous pataugiez. Est-ce que l'image du chercheur qui n'arrive pas à dire son sujet de recherche est quelque chose qui vous a été renvoyé?
Ouais, c'est quelque chose que plein de choses m'ont un peu renvoyé en permanence. Donc là, on voit que c'est une scène un peu familiale dans l'extrait. Bah, voilà, comment parler à ses parents, à sa famille, d'un sujet voilà qui est très très particulier, très spécialisé dans une branche de la physique. Un doctorat, ça arrive après déjà 5 ans d'études, pendant lesquelles, au fur et à mesure, on a pu s'éloigner d'autres personnes de sa famille parce que ouais, on a continué des études dans une direction, ils les ont continuées dans d'autres. Donc ouais, on arrive au milieu d'une thèse à se dire mais je suis tout seul, même au sein de son laboratoire finalement. Une thèse, c'est un projet très personnel, même vis-à-vis d'autres chercheurs, donc on a besoin de communiquer dessus, les séminaires, de laboratoires. Et puis même si ces séminaires arrivent, on se dit mais oui, je travaille tout seul, c'est mon sujet à moi. Donc il y a quelque chose de très valorisant. Et voilà, je fais avancer la recherche moi-même, mais des fois c'est oui, mais je suis quand même un petit peu tout seul dans mon coin. Et c'est vrai que...
Mais c'est un tout seul qui dit, est-ce que je suis seul à me comprendre, c'est ça? Le tout seul que vous soulignez?
Ah bah alors après, on essaye de se donner des moyens de se faire comprendre par d'autres. Mais oui, il y a des moments, ça, je me suis clairement dit ça, je me dis c'est pas possible, il y a que moi qui vois ce que je vois, ou non, c'est pas possible. Donc ouais, à un moment, il faut chercher ailleurs, mais les moyens existent, il faut se confronter à ça, et ma thèse en 180 secondes, c'est un exercice de confrontation.
Noémie Mermet au téléphone, sur les raisons qui vous ont à la fois mené à candidater et à gagner le concours de l'année dernière. Et peut-être sur cette image aussi du chercheur et de la complexité et peut-être de la difficulté de transmettre ses recherches en peu de temps à un public qui n'est pas du tout spécialiste.
Oui, alors moi je rejoins tout à fait l'opinion de Grégory et de Benjamin. C'est vrai qu'il faut savoir aussi que quand on fait une thèse, on n'est pas du tout formé à la communication, à la vulgarisation scientifique, à la popularisation si je puis dire. Enfin en tout cas, je sais pas ce qu'il en était pour eux, mais pour moi, j'ai jamais eu de formation à ça. Donc c'est un exercice qui est extrêmement difficile quand on est habitué à parler avec nos pairs, à utiliser un jargon extrêmement précis et complexe. Et c'est vrai que avant que je fasse ce concours, quand on me demandait sur quoi je travaille, j'avais le réflexe de sortir mon sujet de thèse. Et donc là, évidemment, personne ne comprenait. Donc c'est vrai qu'on peut se sentir seul. On peut se sentir pas compris aussi et dans un espèce de corporatisme où finalement seuls les savants entre guillemets sont détenteurs du savoir. Donc de se familiariser avec ce type d'exercice, ça nous aide aussi nous à apprendre à communiquer en termes simples et à diffuser notre savoir, et aussi c'est extrêmement enrichissant pour nous parce que ça nous permet aussi d'avoir une autre vision peut-être un peu plus simpliste de notre sujet, mais de réfléchir à des questions qu'on ne se poserait pas nous-mêmes tellement elles peuvent paraître évidentes.
Une vision plus simpliste de notre sujet et une façon de s'adresser aux autres, ce seraient aussi deux axes de votre participation à ce concours, Grégory ?
Complètement, l'aspect de médiation scientifique, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup chatouillé, je dirais. Moi, j'ai pas ressenti la même frustration peut-être que Benjamin et Noémie vis-à-vis de la communication sur mon sujet. Peut-être parce que, je sais pas, j'ai des amis qui ont particulièrement le temps de m'écouter blablater et donc de comprendre ce que je dis, la famille également. Mais peut-être, il y a des sujets qui s'y prêtent plus volontiers que d'autres.
Bien sûr.
Et dans la biologie, on a quand même assez facilement, on arrive à trouver des images qui parlent. J'ai en tête le dessin animé que je regardais quand j'étais petit, c'était La Vie, où tout était un peu humanisé dans le corps humain, et ça aide énormément à comprendre les concepts de ce côté-là. Et oui, c'est un axe sur lequel je me suis appuyé pour mon propre propos, quoi, au final.
Noémie Merma qui dit « Moi, je n'ai jamais été formée à la communication, à la vulgarisation, à la popularisation de mon projet scientifique. » Est-ce que c'est la vocation de chercheurs comme vous d'être formés à la vulgarisation scientifique ?
Alors, est-ce que c'est notre vocation ? Je ne sais pas, mais c'est un devoir en tant que citoyen et scientifique qu'on se doit de prendre à cœur pour rappeler, d'aller vers les citoyens et vers les gens qui ne connaissent pas ce qu'on fait, de leur rappeler que c'est dans les labos que se fait l'évolution du savoir, de la technique et de la technologie, et de leur montrer que quand c'est expliqué de manière simple, les concepts sont simples, les concepts généraux sont simples, et qu'on n'est pas des énormes cerveaux largement supérieur à la moyenne ou quoi que ce soit. On est des gens qui travaillent et juste on travaille avec notre tête sur des sujets très précis. Et c'est en fait la précision qui empêche l'accès simple par les autres.
En vue de réintégrer le domaine de la recherche au domaine citoyen, oui, au domaine de la société civile ?
Complètement.
Vous avez l'impression que c'est quelque chose qui est encore trop séparé, le dedans et le dehors ?
Oui. Oui, oui, clairement. Quand on parle aux gens de nos sujets, ils nous regardent avec des grands yeux écarquillés, soit en disant « j'y comprends absolument rien, arrête », soit en étant très curieux et en cherchant justement à comprendre, en posant plein de questions. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a une barrière, qu'on ne connaît pas en fait comment la science ça marche, comment la recherche est faite, quel est le quotidien du chercheur, son investissement personnel, tout ça. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de filtre sur l'image du chercheur, qu'un concours comme ma thèse en 180 secondes tend à lever un petit peu et à réhumaniser peut-être la recherche.
Annick Suzer-Weiner, sur cette question de la vulgarisation, la popularisation, la simplification des recherches, ce sont des mots que tous les trois étudiants emploient. Quels sont ces enjeux ? Pourquoi est-ce que c'est important que les jeunes chercheurs sachent vulgariser leur recherche ?
Alors, moi je dirais qu'il y a un niveau individuel et un niveau social. Le niveau individuel, je pense que l'université pense beaucoup aux jeunes et à leur avenir. Et que donc, puisqu'on parle brièveté, les entretiens qu'ils auront à passer seront toujours brefs.
Avec qui ?
Pour une embauche ultérieure, que ce soit un concours universitaire ou un entretien pour entrer dans une entreprise, puisque justement nous voulons que les doctorants rayonnent partout, dans toute l'économie. Donc ça, apprendre à être concis et clair, c'est les deux choses, concis et clair, est extrêmement fructueux, je pense, pour eux-mêmes. Voilà. Et par ailleurs, sur un plan beaucoup plus général, en sortant de l'individuel, nous pensons qu'ils nous rendent service pour faire comprendre justement que la recherche a une incidence sociale et n'est pas, voilà, on sort de cette tour d'ivoire, eux-mêmes, mais aussi la recherche, puisque la recherche est en grande partie financée par l'argent public.
J'allais y venir. Voilà. Évidemment, il y a un enjeu en effet citoyen et de réintégration, voilà, du domaine de la recherche dans le domaine de la société civile. Après, il y a un enjeu financier. Quand vous dites qu'ils nous rendent service, ça veut dire quoi ? Clairement, lever des fonds, c'est des bons ambassadeurs pour lever des fonds ?
On peut le dire. Enfin, quand je dis lever des fonds, alors bien sûr, il y a justement nos partenaires, en particulier la Caisse des dépôts.
Allez, citons-les.
La Caisse des dépôts, donc ça c'est un partenaire qu'on connaît tous, la MGEN et la CASDEN, donc eux les convaincent, mais c'est bien au-delà, je pense, à nos impôts, à tous. C'est-à-dire que la la recherche, on peut pas ne pas rendre de compte quelque part et le faire de manière compréhensible, quoi. Hein. On ne dit pas donnez-nous un chèque en blanc, on va y aller. Hein. Il faut comprendre qu'on est avec eux, pour eux, et faire comprendre un peu les bénéfices à plus ou moins long terme. Donc à court terme, c'est peut-être pour les jeunes, mais à plus long terme, c'est pour toute la société et pour que la recherche continue.
Carrément réintégrer l'idée ou ressouligner l'idée que la recherche est un domaine public. Alors on verra les limites hein, parce que ça tend aussi vers d'autres choses, mais que la recherche est un domaine public, financé par de l'argent public. Alors ce concours-là, ce serait une sorte de renvoi d'ascenseur ou de compte-rendu de l'usage de l'argent public ?
Pourquoi pas,
hein ? Pourquoi voilà. pas ?
Alors je dis, il y a les deux aspects, hein, concis et clair. Voilà. Alors, concis, je dirais, c'est presque plus pour eux-mêmes, hein, pour apprendre à... voilà. Mais clair, c'est pour se faire comprendre, là, que c'est plus l'aspect vis-à-vis de la société, quoi, hein, faire comprendre pourquoi est-ce qu'on travaille dans les labos, que c'est pour tout le monde. Et puis, après, il y a la connaissance. Hein. On a tous été passionnés par les nouvelles récentes de Philae, en astrophysique, etc. Pourquoi on peut pas très bien le dire, hein, mais c'est quelque chose qui fait partie du bagage humain, hein, de la richesse humaine. Donc voilà, donc tout ça, ils sont nos ambassadeurs, effectivement, je le pense.
Alors, on pense en général à la douleur comme étant le symptôme d'une maladie. Hein. Elle peut être le symptôme d'une tumeur, d'une infection, d'une migraine, par exemple. Mais on pense aussi à la douleur comme étant le résultat d'un petit orteil qui se bute contre un pied de table ou d'un café bouillant maladroitement renversé sur une jambe. Mais avez-vous déjà pensé qu'une douleur puisse être provoquée par une caresse ou par le simple frôlement d'un drap sur la peau ? Pourtant, ça existe. Et ceci, le fait de ressentir une douleur suite à une stimulation tactile, normalement non douloureuse, s'appelle allodynie. Chez les patients allodyniques, le simple fait d'effleurer la peau leur provoque des douleurs intenses. Imaginez que je vous caresse le bras d'une main douce et affectueuse comme ceci. Et imaginez qu'au lieu de ressentir cette sensation plutôt plaisante, vous ressentiez une douleur cuisante, insupportable. Voilà ce que les patients allodyniques endurent au quotidien, lorsqu'ils s'habillent, se rasent pour ces messieurs ou lorsqu'ils prennent simplement une douche. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne dispose d'aucun traitement qui soit réellement efficace contre l'allodynie. Alors comment notre cerveau peut-il se tromper à ce point ? Comment peut-il mal interpréter une stimulation innocente, comme le toucher d'une main, et la transformer en une sensation malveillante ? Eh bien, en temps normal, lorsque l'on se touche la peau, l'information tactile est détectée par des petits capteurs qui vont l'envoyer via les nerfs au niveau de neurones situés dans notre moelle épinière. Ces neurones vont récupérer l'information et vont l'envoyer dans les zones de notre cerveau dédiées à l'interprétation de cette information tactile. Graduation day. Graduation day.
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues, par Marie Richeux.
On se souviendra toujours du jour de notre diplôme, chante les Arbors. Et juste avant, on entendait la voix de Noémie Mermet, votre voix Noémie, lors de la performance. Alors je ne sais pas si c'est celle qui vous a valu le prix de ce grand concours international de ma thèse en 180 secondes. En tout cas, c'est la performance que l'on trouve sur Internet. Comment vous vous êtes préparée concrètement à rentrer en 180 secondes tel que le concours l'impose ?
Alors, c'est sûr que 180 secondes, c'est un format extrêmement court. Donc, on se doit d'être concis, d'aller à l'essentiel. Pour me préparer, j'avais tout d'abord écrit un premier jet avec les choses importantes que je voulais dire, le message que je voulais faire passer. Et je l'ai lu à de nombreuses reprises, à mes proches, à des amis, à des gens, même des inconnus, des gens que je ne connaissais pas. Et à partir du moment où il y avait un élément qui n'était pas compris ou quelque chose qui n'était pas très clair, eh ben je recommençais à nouveau jusqu'à ce que tout soit, limpide. Donc ça, c'était pour le fond. Après, sur la forme, comme je le disais, 3 minutes, c'est extrêmement court. Donc il faut aussi arriver à convaincre en usant un petit peu de la communication non verbale. Donc il faut jouer un petit peu avec l'attitude qu'on pourra avoir sur scène, en faisant attention à mettre l'accent sur certains mots, appuyer des informations importantes par le ton de la voix ou par la gestuelle. Donc là, il y a aussi entre guillemets, un petit côté théâtral qui se met en place. Et voilà, donc moi j'ai eu quelques formations par des gens bénévoles qui m'ont suivi un petit peu tout au long du concours. Et il me semble que certains étudiants ont carrément eu des formations. Ça faisait partie de modules de thèse qu'ils devaient valider, donc avec des cours de théâtre. Il y en a qui ont eu plusieurs heures de préparation. Moi, c'était pas mon cas, mais voilà, c'était... Ce concours a été plus ou moins bien préparé par tous les candidats.
Quand on entend ou quand on lit dans le descriptif du concours qu'il s'agit de séduire à la fois le jury et le grand public et de le convaincre, est-ce que vous avez l'impression de jouer aussi sur ces aspects-là ? Sur des techniques de séduction, vraiment, mais même des séductions, pas forcément des séductions sexuelles, mais des séductions marketing ?
Oui, sans doute. Je repense notamment à Marie-Charlotte Morin, qui avait eu le premier prix en national en 2014 et le deuxième prix en international, qui elle avait beaucoup joué sur l'humour, et c'est vrai que c'est quelque chose qui passe très bien en fait. Donc, et je suis persuadée qu'on arrive mieux à faire passer un message d'une part, mais surtout à le faire retenir quand on joue sur les émotions du public ou du jury en l'occurrence, que ça soit en le faisant rire, en le faisant pleurer. C'est important de jouer sur ça.
Nicolas Duraca, on arrive du côté de la communication. Alors on va vers vous parce que vous êtes précisément doctorant en sciences de l'information et de la communication, mais vous n'êtes pas du tout candidat. Quel regard vous pouvez porter en tant que chercheur sur ces questions de communication, sur ce concours ?
Alors j'écoute tout le monde depuis tout à l'heure. J'ai pris beaucoup de notes. J'ai un bureau rempli de notes maintenant. Je vous remercie. Oui, effectivement, en termes de communication, je pense que, et vous l'avez dit, cité il y a quelques secondes de ça, vous avez parlé de marketing, d'une communication qui vise à séduire, à convaincre. Et je crois qu'on est complètement, avec ce concours, ma thèse en 180 secondes, dans la plus grande confusion qu'on puisse faire autour de ces termes de communication. Je m'explique. Il est évident qu'aujourd'hui, on est dans une société dans laquelle la trajectoire idéologique a été complètement envahie par cette dimension de communication marketing. On voit aujourd'hui, à travers notamment la publicité, on voit le plus simplement comme la communication marketing, mais ça s'expose aussi dans tout un tas d'autres domaines. Mais cette communication marketing, elle représente vraiment une trajectoire idéologique, celle de la persuasion et de convaincre. C'est-à-dire qu'on devient des cibles, comme des consommateurs, et il faut nous convaincre. Et c'est là que intervient la confusion autour de la communication, c'est que l'activité de communication est beaucoup plus complexe que le simple but de convaincre et de persuader. C'est une activité de construction de sens commun, c'est une activité symbolique qu'on mène dans un groupe. Et cette complexité, elle nous amène beaucoup plus à délibérer, à échanger, à partager des émotions, des sentiments sur un temps long. C'est là que j'insiste, c'est le temps long qui est important pour qu'une communication soit la plus performante, c'est-à-dire que l'intercompréhension soit la meilleure. Et ça, en termes de communication, c'est important puisqu'on a tendance à parler d'une communication quand en fait on parle de com, si je puis dire, c'est-à-dire de communication marketing.
En fait, vous faites la distinction, pardon, entre quelque chose qui prônerait la communication et la vulgarisation d'une recherche scientifique vers le grand public, alors qu'en réalité, ça ne communique pas le travail qui est à l'œuvre. Pour vous, il y a presque un procédé mensonger, c'est-à-dire que ça communique quelque chose qui n'est pas le travail des chercheurs.
Tout à fait. On est complètement dans l'occultation. Hein. C'est pas volontaire, bien sûr. Je pense que on a tous des bonnes intentions quand on veut communiquer. Je connais très bien Noémie, par exemple. Je sais qu'elle fait un travail brillant et je sais que son intention est de communiquer ses travaux et d'utiliser un concours comme celui-ci pour communiquer. Mais en fait, on se fourvoie complètement et on pense utiliser une stratégie, parce qu'on est bien dans le cadre stratégique. Une stratégie qui est efficiente pour communiquer et vulgariser des propos. Et on prend aussi, à mon avis, les gens pour des idiots en pensant que c'est en vulgarisant qu'on va pouvoir accéder à leur appréhension du monde plus facilement. Sauf que, non, au contraire, le temps est nécessaire et je pense, en allant dans des forums de discussion, aller au contact des citoyens, et non pas sur des formats très courts, mais sur des formats très longs, très poussés, type éducation populaire, dans laquelle on va pouvoir développer des connaissances et aller vraiment dans le cœur de notre métier de chercheur, qui est celui du temps long. Et ça, c'est le plus important, parce que sinon, on se ment à nous-mêmes sur notre travail propre de chercheur, je pense.
Grégory Pacini ou Benjamin Vest, puisque vous êtes justement chercheur et candidat à ce concours, quand on entend à l'instant Nicolas Douraca dire que finalement, dans cette brièveté imposée par le concours, on dédie ou on dément la longueur nécessaire au travail de recherche, comment est-ce que vous réagissez à ça, Benjamin Vest?
Pour commencer, alors je peux vraiment bien comprendre ce que dit Nicolas, parce que une des premières étapes, je pense, dans la préparation, un des premiers murs auxquels je me suis confronté, c'est mais est-ce que c'est possible de parler en 3 minutes de ce que je fais sans appauvrir le discours? Et la réponse pour moi, c'est ni oui ni non. Ça dépend. C'est très compliqué parce que ça dépend de ce qu'on veut dire. En l'occurrence, moi, je repense à ce que j'ai pu faire en 3 minutes. C'est évident que je suis très très loin de décrire ma vie de chercheur. Mais on va dire qu'il y a, d'un côté, il y a l'exercice de parler de soi, de parler de ses travaux en 5 à 30 secondes, puis il y a le concours, généralement, qui va amener plein de doctorants à se rendre sur une scène, à parler à des gens. Et pour moi, le génie de concours, il se situe plus là. Pas dans les performances individuelles où on va parler pendant 3 minutes. Et oui, je peux comprendre ce que Nicolas appelle par fourvoiement. Mais à côté de ça, c'est une vraie porte d'entrée où j'en ai pas vu beaucoup d'autres, à vrai dire, en quelques années de thèse, vis-à-vis desquelles des gens vont venir et s'intéresser et voir une poignée de jeunes chercheurs dans des domaines extrêmement variés et tout simplement faire acte de présence, d'être sur la scène, de dire « je suis là » et la recherche, c'est ça. C'est également des jeunes qui vont travailler sur des sujets extrêmement compliqués, extrêmement variés. Et la science n'est pas seulement, oui, en effet, ce qu'on peut voir dans les médias où, de temps en temps, on a un résultat qui est un petit peu digéré. On dit, les chercheurs ont trouvé ceci. Ou un événement comme Philae, Rosetta. C'est vrai que je pense que ce concours est une porte d'entrée vers ce temps long où, finalement, les chercheurs sont sur le terrain en permanence. Et pour moi, l'intérêt du concours, il se situe bien plus là, finalement, que sur la performance qui est très technique et qui a des apports personnels. On en parlait tout à l'heure avec Annick. Il y a une partie très personnelle, mais dans la dimension sociale, il y a plein de conséquences après.
Pour vous, c'est presque une porte ouverte au temps long que Nicolas Douraca appelle de ses voeux, qui est le lieu de la diffusion de la complexité, qui est le lieu peut-être d'une véritable transmission de la connaissance et de la recherche dans sa multiplicité et dans sa complexité. Grégory Pacini, sur ce sujet-là, à savoir tout de même la pénétration d'une idéologie marketing et d'un rapport à une efficacité du discours qui se rapproche à de la communication, mais du côté « comme », pour reprendre les mots de Nicolas Douraca. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est vrai qu'on est dans une période où on a tendance à porter la brièveté au pinacle. Il faut que tout aille vite, il faut que tout soit efficace. Mais je rejoins Benjamin sur ce qu'il vient de dire ici. Je pense que le concours, voilà, il faut pas le prendre personnellement, individuellement, il faut voir la globalité de la chose. Ça permet de donner un spectre de connaissances, certes, qui sont survolées. C'est un panorama vu du ciel qu'on fait, c'est pas une photo microscopique. Mais ça permet d'attiser la curiosité des gens et voilà, d'initier un rapport. Le concours se suffit pas en lui-même, c'est ce qui va amener derrière et c'est ce qui va aussi provoquer en nous, sur notre manière de communiquer par la suite et de se rendre plus aisément accessible aux autres. Et je m'inscris un petit peu en faux par rapport à ce qu'a dit Monsieur Douraka tout à l'heure, où il disait que finalement c'est trop court, c'est plus un exercice de communication mais un exercice de com. Dans une présentation, dans un congrès scientifique, c'est exactement la même chose. C'est pas 3 minutes mais c'est 15 minutes. Et ça ne traduit absolument pas la masse de travail qu'il y a derrière. Même si on montre les données qui sont belles, qui sont jolies, qui sont celles qui sont publiées, c'est comme faire un film. On va faire un tournage de 1 mois et demi pour avoir un produit final d'1 heure et demie. C'est exactement la même chose à mon avis. Et ici, le format fait que c'est à la fois accessible et plaisant à suivre.
Nicolas Douraka, alors on dit à la fois porte ouverte vers un temps plus long et peut-être finalement ça va dans le sens du reste des communications des scientifiques à l'égard du public ou dans les colloques à l'égard des pairs. Qu'en pensez-vous ?
Alors oui, je vais valider cet argument-là parce qu'effectivement c'est une porte ouverte. Je le conçois tout à fait, mais ce qu'on occulte trop facilement quand on s'arrête à cet argument-là, c'est ce qu'il y a derrière, et c'est aussi notre travail de chercheur, c'est bien d'aller sûr. Peut-être un petit peu plus loin que ce qu'on a là devant les yeux. Et ce qu'il y a derrière, c'est que cet exercice de synthèse et cet exercice de mise en com, si je puis dire, il valide quelque chose qui est en cours dans le système universitaire comme dans la société depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. C'est cette rapidité, cette vitesse. Il faut produire vite, beaucoup, et produire bien, parce qu'il faut dans des revues classées, des grands colloques, des choses comme ça. Alors, cette trajectoire-là, aujourd'hui, on la voit apparaître dans un projet ministériel autour d'une réforme du doctorat qui va imposer un doctorat qui devra se faire en 3 ans, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, la moyenne des doctorats se font entre 5 et 6 ans. Donc, on aura une imposition autour de 3 ans. On aura toujours plus de choses à faire, donc il faudra toujours aller plus vite. Et on se rend compte qu'un concours comme celui-ci, finalement, n'est qu'un objet qui vient soutenir une idée plus large. Et quand on participe à un concours comme celui-ci, on valide aussi. On accepte de prendre cette direction-là. Alors peut-être que mes collègues qui sont ici présents sont tout à fait d'accord avec la direction qui sera prise dans la prochaine réforme doctorale.
On va leur demander.
Mais moi, pour ma part, c'est pas mon cas, parce que je crois que le temps long de la recherche est important, que 3 ans... trop court pour faire un doctorat, et qu'on nous impose ça en passant par du stand-up et des one-man shows pour nous dire « regardez comme c'est bien ». Pour ma part, je ne validerai pas les choses en allant participer à un concours comme ça parce que je regarde ce qui se passe derrière le rideau.
Alors, puisque vous êtes interpellés l'un et l'autre, Benjamin et Grégory, ou alors Noémie au téléphone avec nous, bien sûr, hein, c'est tout de même une question que vous vous êtes probablement posée ou qu'il faut poser. Dans quelle mesure est-ce que cela valide un processus par ailleurs plus long, par ailleurs plus large, où l'on demande au temps de recherche d'être réduit, où on réduit pas que les temps de recherche, les financements aussi, les bourses et parfois les emplois des jeunes chercheurs. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un processus global, hein? Alors vous dites non, Annick. Bon, on va laisser parler les jeunes chercheurs et puis on vous entendra ensuite.
Est-ce que c'est global? Ouais, il y en a sûrement un petit peu ouais, partout. Bon, j'aurais du mal à me désigner complice quand même, en étant juste participant à ça. Oui, c'est évident que à tout point de vue, Grégory le disait, même au sein de la recherche entre pairs, se faire entendre, c'est compliqué. Et alors lorsqu'on a une scène devant soi et qu'on nous la donne ne serait-ce que pour 3 minutes, parler pendant 3 minutes et se faire entendre, c'est agréable et aujourd'hui, bah oui, ça se passe de plus en plus comme ça. Bon, après, force est de constater que dans tout ce que j'ai pu entendre parmi les différentes prestations de collègues, etc. pendant ce concours, j'avais pas l'impression que ça modifiait leur manière de faire de la recherche. De la présenter, oui, c'est sûr, mais je le disais tout à l'heure, je trouve que ces occasions, elles sont quand même rares, et en l'occurrence, j'aurais eu plutôt tendance à dire avant que le temps long de la recherche, il avait tendance à cloîtrer un certain nombre de personnes dans leur tour d'ivoire. Moi, je suis doctorant sur le plateau de Saclay, je suis très heureux
en
de voir...
France.
Pardon ?
En Ile-de-France,
en Ile-de-France, ouais, ouais, pas les eaux. Je suis ravi de voir qu'il y a de nombreuses initiatives, Nuit des chercheurs, Fête de la science, qui se multiplient dans ce sens-là, qui n'existaient pas avant. Et je pense que ce genre de concours ne modifie pas tant la manière de faire de la recherche que de la manière de la partager.
Voilà. Annick Suzer-Weiner, hein, quand même, sur ces réserves qui sont liées. Non, je voudrais vous écouter, d'accord, vous, parce que vous êtes aussi jury. Oui, évidemment, quand on entend décrire la manière dont même les doctorants eux-mêmes se préparent à cette performance, à savoir travailler leur gestuelle, faire appel à des techniques vraiment de showman, hein, de comédien, de théâtre, quel regard vous portez là-dessus ? Est-ce que ça ne va pas trop loin dans ce qu'on demande aux chercheurs ?
Je dirais non, parce que nous devons penser quand même à l'avenir de ces jeunes. Et il faut vivre dans la société actuelle qui n'est pas que mauvaise. Hein. Enfin, je veux dire, je pense que le fait de communiquer... Alors, j'ai bien compris que Nicolas distingue entre com péjoratif et communication. Je vois bien, je connais, bien sûr, on est tous conscients des mauvais côtés de la com. Ceci dit, bon, il y a, enfin, apprendre à se présenter, apprendre à communiquer. C'est quelque chose que je trouve pas quand même répréhensible.
Hein. Quand on lit par exemple des articles scientifiques, hein, pour le coup d'un chercheur comme Yves Citon qui dit il faut préserver les universités comme des lieux privilégiés où sont amorties les pressions de l'utilité et de la profitabilité immédiate, c'est intéressant, non ?
C'est intéressant, mais je pense qu'il peut y avoir cet aspect, mais il faut aussi. Enfin, bon, alors, pour les durées de la thèse, je sais bien les soucis d'un certain domaine. En sciences, en physique, c'est 3 ans. Hein. En biologie, c'est souvent 4. C'est un exemple. Les 2 ici sont exactement dans les temps.
Mais pour vous, le concours n'est pas un signe de ça ?
Non, et puis... Non. Je pense que là, c'est un peu abusé, si je puis dire, de culpabiliser ces jeunes et les organisateurs.
Ils sont très bien sur leur chaise. Regardez-le, ils sont très tranquilles.
Du concours vis-à-vis de réels problèmes. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème avec le financement de la recherche, la durée. Il y a tout cet aspect compétitif, cet aspect de classement, tout ça. Tout ça, c'est un autre problématique.
Et qui est mis en jeu, hein, dans ce concours. Hein, l'aspect compétitif,
oui,
le classement,
mais...
les étudiants qui représentent leurs universités, c'est pas comme si c'était absent, hein, non plus.
C'est vrai, mais il faut aussi, enfin, raison garder. Je pense
jouer
qu'il faut être,
ça,
il faut faire partie de son temps quand même, ce qui n'empêche pas des réflexions de fond sur la durée et sur des recherches de longue haleine.
Nicolas Duracquin, un dernier mot ?
Oui, un dernier mot rapide, puisqu'on
doit être bref cette semaine.
Tout à fait, on va faire bref, comme quoi je peux le faire aussi. Vous citiez Yves Citon il y a quelques secondes. Et je suis tombé ce matin sur une intervention sur France Culture, justement, de Bernard Stiegler sur, justement, ce concours MT180 et les têtes conférences. Et je sais qu'ils ont des pensées qui sont relativement proches. Et je trouve qu'il disait quelque chose de très intéressant sur l'attention, sur cette nécessité toujours croissante aujourd'hui de capter l'attention. Et il disait très bien qu'on est aujourd'hui dans un paradoxe où plus on tente de capter l'attention, plus on détruit l'attention. Ce qui veut dire qu'on aura tendance toujours à vouloir faire plus de com pour être plus visible et on sera toujours plus invisible parce qu'on ne laissera pas le temps à la réflexion. Et ça, c'est quelque chose qui va être important dans l'avenir. À réfléchir autour de ce concours-là et j'aimerais y participer, hein, je pense comme d'autres.
À cette réflexion, vous voulez dire ?
À cette réflexion, bien sûr, pour pouvoir faire avancer des choses sur cette question de l'attention et sur les possibilités qui s'ouvrent à nous autres que la compétition autour d'un concours. C'est restreint, à mon avis.
Pour continuer à faire partie de son temps, comme le disait Annick Suzer-Weiner.
On peut gagner du temps tout en avançant.
Et Noémie Mermet, aussi un dernier mot de votre côté au téléphone, peut-être nous parler des opportunités que vous a offert le fait d'être lauréat de ce concours international 2014. Qu'est-ce que ça a changé ? On disait bien sûr hein, l'appétit, l'ouverture de la médiation de ces recherches vers le grand public. Comment est-ce que ça a modifié votre parcours ?
Alors, déjà d'une part, j'ai une certaine satisfaction personnelle dans le sens où le fait de participer à ce concours, ça m'a permis de me faire entendre, enfin moi en tant que doctorante.
Ce qui revient beaucoup en fait hein, dans les paroles aujourd'hui.
Bien sûr, parce que finalement, comme je le disais tout à l'heure, en tant que doctorant et en tant que chercheur en règle générale, on a l'habitude de s'adresser qu'à nos pairs et de communiquer qu'avec des spécialistes dans nos domaines. Et pour citer une anecdote, quand j'ai passé le concours national à Lyon en juin 2014, à la fin du concours, il y a une petite dame qui est venue vers moi et qui m'a dit « Ah, mais vous savez, je connaissais quelqu'un qui avait le symptôme douloureux dont vous avez parlé. Et elle a beaucoup souffert de ça toute sa vie, mais on n'a jamais su ce que c'était. Et ben, grâce à vous, ce soir, je sais ce que c'est. » Voilà. Donc, pour moi, ça, c'était très fort parce que sans cette intervention de 3 minutes sur scène, peut-être que cette personne-là, elle aurait jamais entendu parler d'allodynie, puisque c'est un terme qu'on ne connaît pas forcément, puisque... c'est quelque chose dont on n'entend pas forcément parler dans les mass médias. Donc déjà pour moi ça c'était chouette de finalement d'arriver à faire apprendre un message en 3 minutes à des gens qui ne connaissaient absolument rien de tout ça. Et la deuxième satisfaction c'est évidemment l'ouverture de portes dans la médiation scientifique. Puisque c'est sûr que bon, ce concours de 3 minutes, évidemment, ça m'empêchera pas de soutenir ma thèse dans un an et d'écrire des articles scientifiques. Mais ça m'a permis d'écrire dans des revues scientifiques tout public. Ça m'a permis d'être contactée pour faire des conférences, donc pour diffuser un petit peu ma science et aussi pour moi d'apprendre beaucoup, puisque quand on fait des conférences, et ben on nous pose des questions qu'on ne se pose pas, qu'on ne se serait pas posé. Donc c'est extrêmement formateur aussi pour nous. C'est un très bon exercice et vraiment je recommande aux étudiants de se former à ça, à la communication scientifique, en passant le concours, en ne le passant pas, peu importe. Mais pour moi, c'est extrêmement important de s'ouvrir au monde et de pas rester uniquement dans nos labos avec nos collègues à travailler sur nos recherches. Je pense que c'est extrêmement formateur d'aller voir ailleurs.
Et passer.
Vous écoutez France Culture, les nouvelles vagues par Marie Richeux.
16h52, la rubrique Au singulier fait entendre des jeunes chercheurs parfois, comme aujourd'hui Natalia Klaus, qui sonde ses souvenirs au micro d'Inès Duperron. Elle parle aujourd'hui du choc constitue pour elle le visionnage de Blade Runner de Ridley Scott, ou comment se perdre dans un film.
Alors, c'était en 2002, c'était la fête des 20 ans de sortie de Blade Runner. Et donc, le vidéoclub avait fait un stand comme ça, avec la grande photo du cyborg et Harrison Ford. Et mon frère adorait les films de science-fiction. Moi, j'aimais bien aussi, mais c'était pas forcément mon premier choix. Et donc, il a dit, allez, on prend ce film. On n'avait jamais entendu parler. C'était les années 80, voilà. Donc, on a choisi ce film. Et dès la première scène, j'étais scotchée par la bande-son de Vangelis. C'était une bande-son complètement mystérieuse. Donc, tout de suite, je me sentais lancée dans mes romans policiers que je lisais beaucoup à l'époque. Mais je m'attendais pas du tout à ce qui allait se suivre, qui était alors être perdu dans cette ville labyrinthique qui, j'ai appris après, c'était Los Angeles. Et en 2019, donc déjà, même si c'était 2002, pour moi, ça me semblait tellement loin. Bon, j'étais petite, j'avais 14 ans. Mais après, comment ce film très mystérieux avec... alors c'était de la science-fiction, mais en même temps, c'était une enquête policière. Et donc, c'était tout à fait humain. C'était pas épuré comme ça peut être parfois la science-fiction. Et je tombe complètement amoureuse de ce cyborg qui était Pris. Et donc, ce cyborg joué par Daryl Hannah m'a complètement... scotchée. Elle était souple, blonde. Il y avait une scène qui m'a vraiment marquée où elle faisait des acrobaties. Elle avait un maquillage un peu comme un raton laveur. Et elle était magnifique. Je me suis dit, quand je serai grande, je vais être comme elle. Mais au-delà de ça, et c'est ça, je m'attendais pas vraiment à ça, c'est que ça a pris une dimension un peu métaphysique parce que il y a un moment où Roy, qui est un des cyborgs, le dernier cyborg à mourir, à vrai dire l'avant-dernier, mais bon. Il contemple sa vie, toutes ses perceptions, il est face à la mort, il sait qu'il va mourir, et il se dit, toutes mes perceptions vont disparaître, tous mes souvenirs, tout ce que j'ai vu, et ce qu'il avait vu était plus qu'humain, il avait vraiment vu beaucoup de choses. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, alors j'étais croyante à l'époque, que c'était une espèce de courage, en fait, que de se dire qu'il n'y avait pas d'au-delà, en fait. Et j'avais vraiment très peur d'aller en enfer, j'avais peur de la faute, j'avais peur du péché. Et je croyais que les gens qui ne croyaient pas à l'enfer, en fait, ils étaient des lâches, parce que c'était plus facile de vivre dans l'athéisme. Mais en fait, en voyant ce film, j'ai vu les choses de l'autre côté. J'étais effrayée par la possibilité que toutes mes perceptions, mon âme, puissent disparaître. C'était un moment vraiment difficile. J'étais avec mon frère qui était aussi croyant, et tous les deux, quand le film s'est terminé, on s'est dit, mais peut-être c'est ça, peut-être que ça n'existe pas, l'au-delà. Bon, c'est pas tout de suite que c'est venu mes réflexions religieuses, mais c'était un point tournant, en fait. C'était vraiment le moment où je me suis posé la question. Et les images de ce film me reviennent vraiment souvent avec cette bande-son d'Evangelis, que je connaissais par ailleurs, pas la bande-son, mais Evangelis. Et c'était étonnant parce que ça ne ressemblait à rien, en fait. Cette bande-son est pour moi la plus belle bande-son du cinéma. Enfin, c'est vraiment magnifique. Et c'est un peu le début de mon cheminement vers mon état de croyance actuelle. Et donc, ce film a vraiment marqué mon adolescence.
Et quand il vous arrive de réécouter la musique aujourd'hui, est-ce que vous avez les images du film qui reviennent à l'esprit ?
Oui, tout à fait. Surtout, donc l'acteur qui jouait Roy, qui était le cyborg, il est tout blanc, avec les yeux très bleus. Il était vraiment effrayant. Et j'avais aucune empathie. Pendant tout le film, j'avais aucune empathie envers lui, jusqu'à cette scène où il raconte tout ça. Et il dit cette phrase qui m'a vraiment marquée, qui est « c'est ça que d'avoir peur, c'est d'être esclave ». Donc ce jour-là, je me suis dit « vivre dans la peur, c'est quelque part un esclavage ». Donc c'était une lancée vers une recherche de vie sans peur.
Hold back. Wait a minute. Go right. Stop. Enhance 5719. Track 45 left. Stop. Enhance 15-23. Hard copy right there.
Et cet extrait de la bande originale de Blade Runner évoqué par Natalia Klaus à l'instant, Natalia que l'on retrouve demain à la même heure, Grégory Pacini, Benjamin Vest, Noémie Mermet, Nicolas Douraca, Annick Suzorweiner. Merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous pour évoquer ce concours, ma thèse en 180 secondes. On retiendra peut-être les deux moments forts de cette discussion, à la fois être capable de faire une critique approfondie du contexte dans lequel s'établit ce concours et à la fois prendre tous les outils qu'offre ce concours pour le monde dur et incroyablement énergique dans lequel, futurs chercheurs, vous serez plongés. On n'a pas dit qu'on voulait écouter quoi, Grégory Pacini, on n'a pas eu le temps.
Black Rebel Motorcycle Club, Beat the Devil's Tattoo.
Voilà, c'est comme si on l'avait entendu. Les Nouvelles Vagues, ça se réécoute, ça se partage, ça se télécharge dans l'ordinateur. Vous pouvez vous abonner au podcast et diffuser bien autour de vous. Ça nous fait très plaisir, Les Nouvelles Vagues, ça se commande, ça se critique, ça se complimente. Il y a de la place pour tout ça sur notre page franceculture.fr. Merci. Pour vos messages, on peut se rejoindre sur Facebook, Twitter et SoundCloud. Vous pouvez aussi assister, j'imagine, à la finale le 1er octobre à la Sorbonne du concours Ma thèse en 180 secondes.
C'est complet, mais c'est en ligne, retransmis en direct.
Tous devant vos ordi. Merci à Romain Debecq de Lièvre, Inès Dupéron, Alice Ramon qui pense et prépare cette émission avec moi. Émission réalisée par Anne-Laure Chanel, Nicolas Delmas aux manettes et aux droits d'auteur, Charles Barjou